les jardinières.
On se réveille ensemble comme chaque samedi pour cultiver notre curiosité et nos plantes. Bonjour Mylène.
Bonjour Noélie, bonjour à tous.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Cathieu Racine. Bonjour Cathieu.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis là.
Cathieu, vous êtes guide de randonnée nature et jardinière à Mervelier. On peut vous suivre, enfin suivre surtout vos activités sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi avec au programme des conseils et des astuces et des réponses à vos questions. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
Avant de plonger dans le sujet de notre matinée, Cathieu, on arrive à la fin novembre, une période un peu particulière pour le potager. Plus grand chose ne pousse, surtout qu'en ce moment, la météo n'invite pas vraiment à mettre les mains dans la terre. Qu'est-ce qu'on peut encore faire malgré tout au jardin si une éclaircie pointe le bout de son nez, Cathieu ?
En général, il y a toujours des retardataires dans la protection des plantes. Les plantes qui seront vivaces ou diverses plantes qu'on pourrait avoir dans son jardin, pas forcément le potager, mais autour de la maison ou sur un balcon. Et parfois, on a eu quand même là 2-3 semaines de temps plutôt doux, plutôt clément. Et puis, on a oublié qu'on était au mois de novembre et puis qu'il allait tout d'un coup faire des températures en moins. Donc voilà, il y a ces plantes à protéger. Peut-être ça, c'est encore quelque chose qu'on peut faire. Il n'y a encore pas fait trop froid, donc on est encore juste dans les clous au niveau du timing. Et puis, par exemple, si on parle du potager, on pourra pailler les artichauts pour ceux qui ont des plants d'artichauts. Si on les protège bien pour l'hiver, eh bien, on peut les récupérer d'une année à l'autre. C'est une plante qui est vraiment sympa dans le potager. Et ceux qui sont un petit peu maniaques de leur jardin et puis qui n'aiment pas trop voir des feuilles mortes sur la pelouse ou dans leur prairie, on peut ratisser ces feuilles si vraiment vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Et on peut aussi aller mettre ces tas de feuilles dans des coins de son jardin pour soit faire des abris pour divers petits animaux qui auraient besoin d'un peu de chaleur en hiver, ou mettre ça sur son potager pour faire une bonne couche d'humus pour le printemps.
Merci pour vos conseils, Cathieu. Vous restez avec nous jusqu'à 8h pour parler des orchidées. Vous allez aussi répondre aux questions de nos auditrices et de nos auditeurs. Des questions qu'on prendra plus tard par téléphone au 0900 170 20 20. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par SMS. Il suffit de taper le mot « jardin » en début de message, laisser un espace, votre question, votre nom et de nous envoyer ce message au 939. Vous pouvez aussi nous joindre via le formulaire disponible sur notre site.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous sommes avec Cathieu Racine, guide de randonnée nature, passionnée par les plantes et notamment par les orchidées. Cathieu, on commence par les fondations.
Le monde des orchidées, c'est immense. Pour quelqu'un qui en voit une en jardinerie, qu'est-ce qu'une orchidée au juste et qu'est-ce qui les différencie des autres plantes, Cathieu ?
Alors déjà, la première chose, c'est que c'est une plante à fleurs. Donc c'est vraiment déjà la première chose, c'est de savoir qu'on la distingue des autres. Parce que quand on se promène dans une jardinerie ou dans un magasin qui vend des orchidées, c'est vrai qu'on est tout de suite attiré par ces très grandes fleurs majestueuses. Donc c'est vrai qu'elle porte bien son nom de plante à fleurs. C'est une plante qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales. Et c'est une plante épiphyte. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'une plante épiphyte. C'est une plante qui va pousser sur une autre plante, qui va la prendre comme support. Mais contrairement au lierre, par exemple le lierre aussi, il a besoin d'un support, la plante épiphyte ne nuit pas à la plante sur laquelle elle est. Ça veut dire qu'elle ne va rien lui prendre, rien en tirer et ne va pas l'abîmer. Elle va juste se servir du support. Et dans les orchidées, il y a quand même 30 000 espèces à ce jour qui sont connues. Donc c'est beaucoup, je pense qu'il y en a encore quelques-unes qui ne sont pas connues, mais voilà, ça va venir tranquillement. Et puis c'est aussi assez intéressant parce que cette plante, on la trouve sur tous les continents sauf dans l'Antarctique. Donc c'est vraiment une plante qui est très très répandue et si on fait attention, quand on se promène dans nos pâturages au mois de mai ou juin, on a aussi beaucoup de sortes d'orchidées qui poussent chez nous. Il faut juste avoir un petit peu l'œil aguerri et puis on les repère assez facilement. Donc c'est vraiment une plante qu'on reconnaît facilement.
Et alors, Cathieu, parmi ces 30 000 espèces, lesquelles sont les plus populaires ou les plus répandues en notre monde ?
Celle qu'on verra le plus, disons, dans nos commerces ou dans les commerces spécialisés, c'est quand même le Phalaenopsis. Donc, c'est vraiment cette grande fleur. C'est en général une tige avec plusieurs fleurs qui nous regardent toutes. Dans cette espèce-là, il y a quand même 50 espèces. Donc, c'est aussi assez intéressant de se dire que voilà, il y a cette fleur-là, il y a cette forme-là, mais en fait, on peut la trouver en 50 nuances. Et c'est une plante qu'on trouvera en Inde, en Asie, aux Philippines. Et puis, ces dernières années, il y a beaucoup d'hybrides qui ont été faites. Donc, c'est une plante qui est beaucoup travaillée parce qu'elle plaît beaucoup. Donc, moi, je trouve que c'est bien parce que ça donne aussi un petit peu de variété dans cette plante-là. Et le phalaenopsis, il est monopodial. Ça veut dire qu'il aura des feuilles sur le bas. Il aura une tige qui va pousser, une hampe florale. Et sur cette hampe florale, il va pousser soit plusieurs autres hampes florales ou il va se faire des fleurs sur cette hampe florale. Mais il ne va pas partir en même temps trois ou quatre tiges florales sur une plante. Si on voit plusieurs tiges qui partent dans un pot, c'est qu'il y a déjà plusieurs plantes. Et le gros avantage, c'est qu'elle fleurit toute l'année. Donc ça, c'est vraiment super.
Vous avez parlé de la fameuse phalaenopsis. J'avais envie de dire le nom sans me brouter. Est-ce qu'il y a d'autres variétés qui mériteraient d'être connues ou adaptées par le grand public qu'on ne connaît pas ?
Oui, après, c'est vrai qu'il faut quelques conditions bien spécifiques pour avoir des orchidées à la maison. Par exemple, il y aura l'orchidée Vanda. J'en ai reçu une au courant de l'année. C'est vraiment une très grande orchidée qui fait des très grandes fleurs qui peuvent faire jusqu'à 30 cm de diamètre. Elle a des très longues racines. Elle est suspendue en général. Elle se cultive suspendue. Donc celle-là, elle ne sera pas dans un pot. Et puis, ses racines peuvent faire quelques centimètres jusqu'à plusieurs mètres. Donc ça, c'est vraiment une orchidée qui nécessite quelques soins particuliers. Pas tant que ça, mais il faut être un peu plus attentif. C'est une plante qui peut vivre entre 20 et 25 ans. Donc ça, c'est vraiment aussi super. Et il y a le cymbidium, on l'appelle aussi orchidée bateau. Là, c'est une orchidée qu'on voit un peu moins dans les commerces parce que c'est une orchidée qui est très, très grande, qui nécessite déjà un grand pot. Elle a des racines très fines, beaucoup de toutes petites racines, à contrario du phalaenopsis qui aura plutôt des racines épaisses et pas beaucoup de racines. Et celle-là, elle fait vraiment beaucoup de fleurs, mais c'est dommage qu'on ne la trouve pas parce que c'est une culture qui est très facile. Les fleurs sont parfumées, donc ce qui est aussi assez rare dans les orchidées. Et puis les fleurs, il y en a une multitude de couleurs et les fleurs sont un peu cireuses, comme ça on les trouve dans des petits arrangements parfois. Et c'est vraiment une très belle fleur.
Et puis, Cathy, vous en avez parlé tout à l'heure, dans la nature, ces plantes viennent souvent de milieux tropicaux. Comment alors ces origines peuvent influencer ce dont elles ont besoin chez nous ?
Chaque fois qu'on va acheter une plante, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on doit toujours s'imaginer comment elle fonctionne dans son milieu naturel. Si on n'est pas capable de reproduire ça au minimum, on aura des plantes qui vont dépérir. C'est logique. Hein. C'est comme si nous, on y met en caleçon de bain sur la banquise. Hein. Je veux dire, on ne va pas tenir longtemps. Donc l'orchidée, elle aura peut-être plutôt besoin d'être sur un bord de fenêtre. Ça, c'est sûr, parce qu'elle a besoin de beaucoup de lumière. Mais pas de soleil direct. On va donc choisir plutôt une fenêtre qui sera au nord ou à l'est. C'est assez idéal. Autrefois, on disait aussi à l'ouest, mais maintenant, avec le changement de climat, l'ouest est souvent très ensoleillé, donc ce n'est pas le bon plan non plus. Et puis, il faudrait une température idéalement entre 18 et 23 degrés avec une humidité qui est élevée. Dans nos appartements et maisons, on a plutôt tendance à avoir des humidités qui sont assez basses. Donc, on lui apportera l'humidité nécessaire. On en parlera après un peu plus loin pour qu'elle se sente bien. Et on mettra ces orchidées dans des pots avec un substrat particulier pour que l'humidité reste, justement. Normalement, dans la nature, elle n'est jamais enterrée. Elle est toujours, justement, épiphyte. Mais là, on va reproduire, en fait, ce climat humide dans un pot. Et ce qui est très, très, très important, ne pas ouvrir la fenêtre sur laquelle elles sont. Donc, c'est pas de courant d'air. Donc, il faut vraiment mettre sur une fenêtre qui ne viendra jamais ouverte.
7h, 8h, les jardinières.
Et comme Miley Cyrus, nous aussi, on parle de fleurs et d'une en particulier. On parle des orchidées ce matin en compagnie de Cathy Racine. Et justement, côté pratique, on commence par choisir sa plante en jardinerie. À quoi on doit faire attention lors de son choix, Cathy ?
Alors, il y a plusieurs choses. Ben déjà, on va se fier, bien sûr, uniquement à notre œil. Peut-être pas forcément regarder que le prix, parce qu'on trouve des orchidées à moins de 10 francs, à moins de 20 francs et à moins de 30 francs. La première chose à regarder, c'est qu'elle ne soit pas trop fleurie, qu'il y ait peut-être une ou deux fleurs qui soient ouvertes. et que les boutons qui sont sur cette fameuse hampe florale soient encore bien fermés, bien gonflés, et puis surtout qu'ils ne soient pas trop ratatinés. Parce que souvent, ils sont encore sur la hampe, et ils sont venus tout ratatiner parce qu'ils ont eu froid, puis on a l'impression que tout va s'ouvrir, puis en fait, quand on rentre à la maison, ils tombent, et puis on n'a plus de floraison. On va aussi bien regarder que les feuilles ne soient pas cassées, qu'elles soient bien luisantes, qu'il n'y ait pas de feuilles jaunes. Hein. S'il y a des feuilles jaunes, ce n'est jamais très bon signe. On va regarder que il y a quelques racines qui sortent du pot, ça veut dire que la plante est en train de pousser finalement. Et puis on va aussi regarder qu'il n'y ait pas de moisissure sur le pot, sur les écorces, que ça soit bien, que tout soit bien net.
Et puis Katiou, quand on a enfin choisi son orchidée, qu'on la ramène à la maison, est-ce qu'on doit la rempoter directement ?
Non, c'est absolument pas nécessaire. Une orchidée se rempote, tous les 2 à 3 ans. En général, quand elles arrivent sur le marché, elles ont été fraîchement mises en terre. Fraîchement, on se comprend, quelques mois, donc ça nécessite vraiment pas tout de suite d'être rempoté. Par contre, on pourra le faire quelques années après, si on voit que les racines sortent, par exemple, il faudra peut-être lui changer de pot, la mettre dans un pot plus grand. On va faire ça, bien sûr, hors période de floraison, donc quand vraiment elle aura fini de fleurir et puis qu'elle a toujours un temps de repos en 2 floraisons. Donc, on va profiter de ce temps-là pour rempoter. Ça sera plutôt en printemps, au printemps ou en automne. Et puis, on va éviter de faire ça justement maintenant dans les saisons de novembre-décembre, parce que c'est une période qui est un peu délicate pour l'orchidée. Il y a le manque de lumière et tout ça, donc elle est déjà un peu en survie, donc on ne fait surtout pas ça maintenant.
Et parlons du pot, justement, Katiou. Est-ce qu'on en achète un plutôt plastique, en transparent, pot en terre cuite, ou alors un cache-pot, ou pas ?
Alors justement, vu que cette plante dans la nature, on va essayer de lui reproduire un petit peu les conditions, ces conditions de nature. Elle n'est pas dans un pot. Elle aura les racines à l'air pour capter l'humidité. Mais chez nous, c'est pas possible. Sauf si vous avez une super serre, mais c'est pas toujours le cas. Donc, on va la rempoter dans un pot transparent. C'est important pour qu'il y ait quand même de la lumière qui rentre un peu dans ses racines, à travers ses racines. Et on va prendre un pot plastique, tout simplement parce que ce pot plastique gardera mieux l'humidité qu'un pot à terre cuite. Un pot à terre cuite, déjà, d'un, il sera pas transparent, et de deux, il est poreux. Donc, ça veut dire que toute l'humidité va sortir. Donc, on va prendre un pot plastique. Et ensuite, on les met dans des cache-pots. Alors, première chose, pour une raison esthétique. Et deuxième chose, bien souvent, ces pots en plastique transparent sont très petits. Et par rapport à la hauteur de l'orchidée, chaque fois qu'on passe à côté ou qu'on la frôle, elle tombe. Parce que ce n'est pas assez lourd en bas. Hein. Donc, on va les mettre dans ces cache-pots pour aussi y garder l'équilibre puis éviter qu'elle tombe.
Les jardinières.
Tous les samedis, entre 7h et 8h, vous vous réveillez en compagnie des jardinières et de leurs invités. Ce matin, nous sommes en compagnie de Katiou, racine et guide de randonnée nature à Mervelier. Nous parlons des orchidées, ces plantes fascinantes mais parfois déroutantes. Et Katiou, vous avez encore quelques conseils précieux à nous partager avant de répondre aux questions de nos auditrices et auditeurs.
Des questions qu'on attend par téléphone au 0901 70 20 20 et vous parlerez en direct avec Katiou. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo de votre problème de jardinage via le formulaire disponible sur notre site ou alors simplement nous écrire un SMS, vous tapez jardin suivi d'un espace de votre question, de votre nom et vous nous envoyez tout ça au 939.
Katiou, on replonge nos mains dans la terre, on va parler justement du substrat. On oublie la terre classique, mais comment choisir le bon mélange pour notre orchidée ?
Alors, on oublie vraiment la terre classique. C'est très, très, très important parce que si on viendrait à rempoter notre orchidée avec un terreau XY, on étoufferait les racines, on les condamnerait de la lumière. Et elles ne pourraient pas se développer du tout. Donc, on va vraiment aller acheter un terreau spécifique pour... un substrat spécifique pour orchidée qui sera composé en majeure partie d'écorce de pin. Donc ça, c'est vraiment important. En fait, encore une fois, dans la nature, elle n'a pas de terreau, elle n'est pas dans la terre. Donc on va vraiment lui mettre ses écorces de pin plutôt pour la maintenir dans le pot, pour lui donner un point d'appui. Et ce qui est aussi important quand on rempotera notre orchidée, c'est si vraiment elle a sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup de racines et puis qu'on ne trouve pas de pot suffisamment grand pour mettre tout ça dedans, plutôt que de les casser au rempotage, on va couper les racines qui sortent le plus à l'extérieur avec un sécateur. Attention à bien désinfecter le sécateur et faire ça avec un sécateur propre, de manière à ce qu'on n'amène pas de maladies déjà dans le pot au rempotage.
Et Katiou, maintenant qu'on a eu un bon substrat, un pot transparent, on arrive à la fameuse question cruciale, comment est-ce qu'on arrose une orchidée ? On parle de... Des fois, on dit, oh, il faut lui faire un bain, il faut la pchiter, enfin, dites-nous la vérité.
Pour ma part, j'ai des orchidées qui sont quand même bien fleuries chez moi, j'en suis très fière. Si une fois vous passez par Mervelier, vous pouvez passer devant la fenêtre et vous verrez tout ça. Je les baigne, c'est-à-dire qu'une fois, durant la période estivale, je les baigne dans mon évier de cuisine, je leur fais un petit bain tiède, comme dans les pays tropicaux.
Mais sans mousse.
Sans mousse. Et je les trempe à peu près une demi-heure. Je les fais vraiment baigner dans ce lavabo avec de l'eau tiède. Et après, je les laisse vraiment s'égoutter avec ce pot justement transparent. Je laisse égoutter l'eau, qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne après au fond du cache-pot. L'orchidée Vanda qui est suspendue, je fais juste une petite parenthèse, c'est mon amoureux qui me l'a offert. Celle-là, je la trempe aussi, je lui mets toutes les racines dans ce bain, pareil, donc de la même manière, sauf qu'elle n'a pas de pot. Et ensuite, l'hiver, eh ben, on va réduire, parce que la plante se met un peu au ralenti, donc il fera aussi moins chaud, elle aura besoin de moins d'arrosage. Donc là, on va vraiment ralentir cette cadence, on va faire ça plus ou moins une fois par mois. Et faites bien attention, quand vous les remettez dans le cache-pot, de faire gaffe qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne au fond, qu'elle n'ait pas les pieds dans l'eau.
Et pour ce qui est de la taille, Katiou, que faire des tiges florales après la floraison ?
Alors la floraison, quand elle est terminée, il va rester cette tige, cette ampe florale. Et parfois, elle reste verte, vraiment verte, comme s'il y avait encore les fleurs dessus. Donc tant qu'elle est encore dans ces couleurs-là, dans ces tons-là, on ne touche rien, on laisse. Parce que très très souvent, il repart une tige florale sur cette tige florale. Donc tant qu'elle est verte, on la laisse tranquille. Tout d'un coup, elle va peut-être brunir. Donc ça va brunir, ça va commencer par le haut, puis ça va descendre, descendre, descendre. Et en fait, tout d'un coup, cette tige sera complètement brune. Donc là, on va la couper à la base. Et ça peut aussi arriver parfois qu'elle brunisse que sur la moitié de la tige et que le bas reste vert. Alors on va vraiment couper ce qui est brun et ce vert va peut-être donner une nouvelle tige florale.
Et puis, Katiou, si ce sont les feuilles, par contre, qui jaunissent ou sèchent, là aussi, on les coupe à la base ?
Oui, et il faut juste, quand il arrive ça, si on a une feuille qui vient très rapidement brune sur le tout en bas de la plante, ça veut dire que la plante pousse. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les premières feuilles du bas, ben, elles sèchent pour laisser la place aux nouvelles feuilles. Si vos feuilles commencent de jaunir un petit peu par-ci, par-là, ça veut dire qu'il y a trop d'eau. Donc attention, en général, des feuilles jaunes, c'est excès d'eau. Donc là, il faut tout de suite réagir. Arrêter l'arrosage. Et si elles sèchent ou elles brunissent, puis qu'elles restent vraiment crochées sur la plante, dans le bas de la plante, oui, bien sûr, on peut prendre de nouveau quelque chose d'assez propre et puis couper ces feuilles afin qu'elles n'amènent pas de maladies ou d'autres choses en pourrissant.
Et Cathy, on a envie de garder nos orchidées en pleine forme. Quels sont alors les indicateurs qui montrent peut-être que notre orchidée montre quelques faiblesses ? Quels sont les ravageurs dont il faut se méfier ?
Ça sera plutôt ces choses-là, il faut être vigilant plutôt dans la période d'hiver, hein, parce qu'on chauffe nos appartements, nos maisons, ça crée un petit climat humide propice à tout ce qui est développement de petites bestioles et de maladies. Donc ce qu'on voit le plus souvent sur les orchidées, c'est des espèces de flocons, des petits flocons blancs. Donc là, ça sera vraiment des cochenilles. Ces cochenilles, il faut faire attention. Sitôt qu'on voit ça, le premier réflexe, c'est pas de courir, acheter un produit, le premier réflexe, c'est de la mettre où il n'y a pas d'autres plantes. Donc on va déjà isoler cette plante dans une autre pièce et on va essayer de faire un traitement plutôt naturel. Le savon noir fonctionne très bien. Le savon noir, il a la faculté de déposer une pellicule huileuse sur le ravageur. Ça va le priver d'oxygène, donc automatiquement il va mourir. Mais par contre, il va rester sur la plante. Donc on va faire un traitement au savon noir, une fois, deux fois, on laisse tranquille, on ne s'affole pas, vu qu'elle est isolée, les autres plantes ne risquent rien. Et ensuite, on va nettoyer cette plante pour la débarrasser de ce qui est plus très joli à voir. Et il se peut aussi parfois qu'il arrive de la pourriture aussi avec cette humidité. Donc là, il va falloir réfléchir un peu peut-être pour changer ou un petit peu mieux ventiler le coin sans ouvrir les fenêtres. Donc trouver peut-être desserrer ses orchidées, enfin voilà, créer un peu d'appel d'air là au milieu. C'est ce qui peut arriver en général, cochenille ou pourriture. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut arriver sur ces plantes.
Les jardinières.
Et oui, retour dans les jardinières. Nous avons évoqué en première partie d'émission ce qu'est une orchidée, les variétés les plus courantes chez nous, comment bien la choisir, la rempoter, l'installer chez soi et surtout comment en prendre soin en cette période de l'année. Toutes les explications de Katiou seront à retrouver en cours de matinée en podcast sur notre site. Il est maintenant temps de répondre aux questions de nos auditeurs.
Katiou, ce n'est pas d'orchidée qu'on va parler, mais d'un figuier. C'est une question de Joël de Glovelier qui nous dit « Bonjour, j'ai acheté un figuier turc la semaine dernière. Est-ce que c'est encore possible de le planter maintenant ou est-ce préférable d'attendre le printemps ? Merci pour votre réponse et bonne journée.
Il faut vraiment attendre le printemps. On parlait tout à l'heure des conditions à reproduire pour que nos plantes se sentent bien. Le figuier, quand même, il vient gentiment chez nous parce qu'on commence d'avoir des étés qui sont un peu plus doux, mais par contre, on a quand même encore des hivers bien froids. C'est plutôt une plante qui viendra du sud, qu'on trouve beaucoup au sud. Donc, il pourra le planter, son figuier, sans aucun problème. Par contre, il faut vraiment attendre le printemps, que la terre se réchauffe, que les conditions se réchauffent, que ce figuier puisse vraiment bien s'enraciner de manière optimale. Si on le met maintenant dans le sol, bon, aujourd'hui, ça ne va pas être possible parce que c'est gelé, mais si on le mettrait sur un sol non gelé, par exemple, demain, si ça se dégèle, la terre est tellement froide que les racines n'arrivent pas à se développer. Donc, il faut vraiment éviter ça. Par contre, pour le garder d'ici le printemps, ça va être aussi un peu tout un art. Il faudrait pouvoir le mettre dans un endroit qui est suffisamment éclairé, qui est hors gel, à peu près dans les 10 degrés, qui resterait dans les 10 degrés, quelque chose comme ça. Et là, typiquement sur ces plantes-là, il faut faire attention aux maladies durant cette période dans laquelle on le garde à l'intérieur. Maladies et ravageurs, ça vient aussi assez facilement. Donc vraiment, gardez-le au chaud, entre guillemets, à 10 degrés, bien de la lumière jusqu'à ce que la terre soit un peu chaude.
Merci Katiou, on reste dans le thème des arbres fruitiers pour la prochaine question qui nous vient de Chloé de Tavannes. Elle nous demande, est-ce qu'on peut encore planter des arbres fruitiers maintenant ou on a raté le coche ? On m'a offert un jeune poirier que je n'ai pas encore mis en terre.
Alors là, c'est un petit peu la même chose, même si le poirier il est quand même indigène. On a toujours ce problème de température de sol qui va vraiment pas favoriser le développement des racines. Par contre, il y a une exception avec les arbres fruitiers. Si vous recevez des arbres fruitiers, si vous achetez des arbres fruitiers qui sont à racines nues, on voyait ça beaucoup autrefois, c'est vraiment ces arbres qu'on trouve qui n'ont pas de peau quand on les reçoit. Donc c'est vraiment les racines qui sont à nu, elles sont souvent enrobées avec de la terre pour que ça se garde quelques jours. Alors là, par contre, c'est vraiment la bonne période maintenant pour les planter. Donc, ça dépend un peu comment est ce poirier. Là, j'imagine que c'est un poirier en pot. On peut le planter, mais franchement, gardez-les, toutes vos plantes dans les pots jusqu'au printemps, mettez-les bien à l'abri, enrobez ces pots aussi avec, comme le poirier, on peut le laisser dehors, mais il faut bien protéger les racines du froid. Donc, mettez des sacs de jute autour. Enfin, voilà, c'est vraiment pas une bonne période pour faire des plantations maintenant, sauf si c'est à racines nues.
Et Katiou, on a reçu une question de Raph sur les orchidées qui nous demande, est-ce qu'on peut couper les racines qui sortent du pot pour ne pas devoir changer la fleur du pot ? C'est une question plutôt pratique, du coup.
Oui, on pourrait, mais si on fait ça tout le temps, l'orchidée, elle va pas trop comprendre ce qui lui arrive, et puis je pense qu'elle va quand même avoir une réaction qui... En fait, quand elle fait des racines, ça veut dire qu'elle pousse. Les orchidées, soit elles font des fleurs, soit elles font des feuilles et des racines. Donc elles alternent toujours ces deux phases. Et si on lui dit toujours non, 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 t'as pas le droit de pousser, je te coupe ça, je te coupe ça, soit elle va sortir encore plus de racines parce qu'elle va se défendre contre cette agression qui n'est finalement pas normale, ou soit alors elle va végéter parce qu'elle n'arrivera plus à se développer de manière optimale. Donc comme je le disais avant, si la première fois on n'a pas trop le temps, on n'a pas trop ce qu'il faut, on peut couper ses racines. Mais la seconde fois, si vraiment ça pousse, là il faut vraiment rempoter cette plante, c'est qu'elle a besoin d'un changement, elle a besoin d'espace.
Les jardinières.
Ce matin, nous avons percé quelques-uns des mystères des orchidées, comment les choisir, les installer et les entretenir. Même en plein mois de novembre, vous retrouverez tout cela en podcast sur notre site dans la matinée.
Katiou, avant de vous laisser partir, on est quand même un peu curieux chez les jardinières. On aimerait savoir, quelle est votre orchidée coup de cœur ?
Hormis mes toutes belles orchidées que j'ai devant ma fenêtre, je me vante un peu. Là,
oui,
je m'excuse, mais ça fait du bien.
Hein. Vous exagérez un peu, mais bon, on accepte, ça va.
Les orchidées qu'on trouve dans les pâturages sont quand même absolument fascinantes. Elles sont minuscules. Une fois, prenez le temps de vous mettre à genoux et d'aller voir vraiment de tout près ces toutes petites fleurs. Et justement, quand je vais faire mes petites randonnées accompagnées de mes chèvres, eh ben, je les empêche de manger ces petites orchidées parce que franchement, elles adorent ça.
Un grand merci, Cathy, pour tous ces conseils. On rappelle que vous êtes guide de randonnée nature à Mervelier. Très beau week-end à vous et à très bientôt dans les jardinières.
Bon week-end à vous aussi.
Merci Katiou. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Nicolas Ruche, horticulteur à Neuchâtel, pour un nouveau thème jardinage. Vous pouvez nous envoyer vos questions toute la semaine via le formulaire sur notre site. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Merci de m'avoir accepté encore une fois chez les jardinières. Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.